c'est quand qu'on est en train de mourir et que ça va pas jusqu'au bout, qu'on revient avec le souvenir de ce moment-là.
Bonjour à toutes et à tous, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes vivants et c'est déjà une super bonne nouvelle. Car aujourd'hui, dans Zoom Zoom Zen, on va plonger au cœur d'une zone encore mystérieuse, même si la science avance, cette zone grise située entre la vie et la mort. Quand on n'est pas décédé, mais qu'on n'est plus tout à fait vivant non plus. Alors je sais, on a déjà fait une émission sur Joe Biden mardi. Oh. Vous vous dites, ça va être redondant. Non. Non, car aujourd'hui, on va zoomer sur les EMI, les expériences de mort imminente. Tous ces gens qui sont partis et puis qui sont revenus. Que se passe-t-il dans le cerveau, dans cet entre-deux? Que voit-on? Eh bien, je dirais, ça dépend. Pour Quentin, la transition vers l'au-delà se ferait évidemment en volant d'une Formule 1. Le paradis ressemblerait à la dernière ligne droite d'Imola, où il doublerait Max Verstappen en lui faisant un gros doigt d'honneur.
On a des frissons.
Cyril, lui, serait certainement devant une picagna de bœuf, option Wagyu, parce qu'on ne meurt qu'une fois. Bono et The Edge seraient à ses côtés, ces petites couilles irlandaises, comme il les appelait affectueusement. Ensemble, ils trinqueraient au Chasseline 82, et puis Cyril sortirait une dernière fois sa flûte à bec pour jouer With or Without You. Les larmes rouleraient sur les joues de Bono et viendraient s'écraser sur les restes de pâté croûte. Pour Manon, c'est plus bizarre. Manon, je la vois bâillonner à l'arrière d'un pick-up immatriculé à Mexico City.
Oh,
ses ravisseurs, des narcotrafiquants moustachus, ont été obligés d'ouvrir les fenêtres car elles sentent très fort la tequila. Mais attendez, autant pour moi, c'est pas une EMI, c'est un rêve prémonitoire.
Oh,
Manon, vraiment,
renoncez
à ce voyage au Mexique. Enfin, pour Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint jésuite, tout ça, c'est des conneries. Quand on meurt, l'âme quitte le corps, et selon qu'on a mangé suffisamment d'hosties dans sa vie ou pas, on se dirige soit vers le paradis, soit le purgatoire, soit l'enfer. Au vu de ses dernières stories Instagram au Pilate, pour Pierre, ça sera certainement le purgatoire. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Steven Lorraise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Steven, vous êtes neurologue, spécialiste du coma et de l'expérience de mort imminente, la fameuse EMI dont on va parler pendant une heure et à laquelle vous consacrez un ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob, ouvrage fascinant, ça s'appelle tout simplement « L'expérience de mort imminente », un livre issu de vos recherches et d'une expérience que vous allez nous raconter. Vous avez placé votre propre cerveau dans une zone entre la vie et la mort, vous allez nous raconter tout ça. Juste le temps de vous présenter ceux dont on sait déjà ce qu'ils vivront durant leur EMI. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour, hola muchachos.
Mais alors, Manon, vraiment,
décidément, il n'arrivera rien.
J'ai tout fait, j'ai tout fait pour la dissuader.
Non, mais franchement, vous m'inquiétez.
Il y a d'autres destinations que le Mexique. C'est trop dangereux.
N'y allez pas. Tout ça,
je serai à la mer avec des surfeurs et mon mec, tout va bien.
Les surfeurs et mon mec.
Très bien, très bien.
J'ai même ajouté.
Je l'ai précisé, évidemment.
Et mon mec. Les surfeurs d'abord, son mec après. Manon, chaque après-midi, vous nous brossez le portrait de l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, et aujourd'hui, j'ai évité de trop vous en dire parce que ma personne à suivre est une idée de notre cher Cyril Lacarrière. Un chanteur qui a composé la BO d'un film nul sur une expérience de mort imminente qui n'en est pas vraiment une non plus. Bref,
vous n'assumez pas.
C'est alambiqué, mais vous allez rire. Ou pas.
Moi, je sens qu'on va se régaler. Face à vous, Steven Lorraise, la vérité est qu'il a déjà vécu une EMI. C'était la semaine dernière quand il a commencé à remplir sa déclaration de revenus 2024 et qu'il a réalisé que Bercy n'avait pas connaissance de la moitié, voire des trois quarts de ses revenus réels. Il a été pris d'un vertige. Fallait-il déclarer tous ses ménages réalisés à droite et à gauche, les commentaires pour le Grand Prix de France Moto, les pubs Intermarché pour les créneaux d'Alsace Charles Bonheur.
Ce vin pétillant 100% français sera le partenaire idéal pour vous accompagner avec élégance dans tous les moments de l'apéritif au dessert. Attention à la vie.
Oui, attention surtout au redressement, Quentin.
J'ai dû arrêter.
Comment ça vous avez dû arrêter?
Vous m'avez balancé, forcément j'arrête.
Ah, j'ai mis fin à la ligne Incorporated.
Si,
à mon avis, vous continuez en douce.
Ouais, c'est clair.
Quentin, sur notre thème du jour, les EMI, ça a inspiré les gens dans la rue.
Et pour fuir Bercy, j'ai trouvé le bon ton d'aller à Arles. Anecdote de famille sur les expériences de mort imminente, projection, imaginaire et fascination aussi autour du cerveau humain. J'ai même croisé des auditeurs très sympas, vous l'entendrez.
Vers 16h30, du Tibet au Japon, en passant par Ponto Combo, le quiz nous entraînera à la découverte des rites funéraires ou des croyances les plus étranges du monde. Juste avant 17h, nous serons rejoints par la sensation comique du moment, selon en tout cas son agent, Guigui Pop sera avec nous. Après 17h, l'idole de Cyril, son dieu vivant, qui fait en tout cas le métier qu'il aurait rêvé d'exercer, critique gastronomique, nous présentera son nouveau livre, mais on coupera la vidéo parce que son visage doit rester un mystère. François Simon sera notre invité. Mais d'abord, avant la bouffe, la mort. Steven Lorraise, vous dites qu'écrire un livre sur les EMI, donc les expériences de mort imminente, revient à marcher sur un champ de mine. Pour quelle raison?
C'était difficile à écrire parce que le sujet est très polarisé. J'y crois pas. Et ben, je vois déjà mes collègues qui disent « Mais qu'est-ce qui sort là ? On a quand même compris, c'est une hallucination, il y a un manque d'oxygène dans telle ou telle région. » Et puis il y a cette autre vision que c'est la preuve d'une vie après la mort, l'âme qui quitte l'esprit, où il y a une conscience cosmique. Et je voulais justement un peu nuancer, parce que c'est un peu noir-blanc.
Selon vous, on ne va pas spoiler, mais la vérité est un peu entre les deux, finalement.
Alors, la vérité, c'est qu'on n'a pas encore compris ce grand mystère qui est notre conscience humaine. Hein. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'on étudie avec toutes ces machines ce qui se passe dans le coma. Et que j'entends, c'est un témoignage extraordinaire, c'est vrai, c'est une réalité neurophysiologique.
Mais énormément de témoignages.
Et pour moi aussi, c'est une fenêtre justement sur cette compréhension de la conscience humaine.
Un long couloir et tout au fond, une lumière blanche. Fasciné par la douce mélopée, Bono avance vers la lumière. Sûr qu'au bout du tunnel, c'est la scène de la sphère à Las Vegas qui l'attend. Mais non, surprise, c'est Cyril et sa flûte à bec dans la boucherie de Denis Chénet, rue du Château d'Eau à Paris. Ah, on ne choisit pas toujours son ami, même quand on est une star. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu.
Monsieur de la carrière, oui.
On est bien reçu chez Denis Chénet.
Ah, toujours. Surtout si on cite votre nom à l'entrée de la boutique. Racontez-nous, Cyril, les expériences de mort imminente, d'où ça sort déjà ?
Je ne veux pas mourir. Je veux revenir avec des réponses sur la mort et sur la vie. J'ai besoin de toi pour me ramener.
Je n'ai vraiment aucune envie de venir assister à ton suicide.
Pourquoi est-ce que tu tiens à le faire ? Pour voir s'il y a quoi que ce soit au-delà de la mort. C'est irréfléchi, immoral et contre-éthique.
Une belle journée pour mourir.
Une belle journée pour mourir, c'est ce que je vous ai fait entendre. C'est un extrait de la bande-annonce du film « L'expérience interdite » sorti en 1990. Un film de Joel Schumacher, casting 5 étoiles, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon. L'histoire d'étudiants en médecine qui voulaient vivre l'expérience ultime, s'approcher le plus près possible de la mort et revenir. Une expérience qui va bouleverser leur vie, mais vous me suivez, cette expérience de mort imminente intéresse autant les scientifiques comme vous que les auteurs de fiction. Que se passe-t-il quand on meurt ?
Et alors vous allez nous le dire, en exclusivité pour France Inter.
Non, moi, notre invité sans doute, mais moi non. Mais en vrai, est-ce que ça fascine tout le monde cette histoire ? Lumière blanche, vie qui défile devant nos yeux, les histoires lues et relues ne manquent pas. C'est à un Français qu'on doit la toute première apparition de cette notion. Victor Heeger, un psychologue et philosophe de la fin du 19e. C'est en 1896 qu'il utilise dans son livre « Le mois des mourants ». Mais cette expérience de mort imminente sera popularisée plus tard, en 1975, grâce au docteur en philosophie et médecin américain Raymond Moody et son livre « La vie après la vie ». Alors, que sait-on vraiment de cette expérience ? Comment est-ce que dès le 19e on a pu l'expérimenter ? Qu'est-ce que ça fait de mourir ? Peut-on se souvenir vraiment de ce qui se passe à ce moment-là ? Et si finalement on ne mourrait pas quand on meurt, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Alors, si on ne sait pas encore tout à fait ce qui se passe pendant une EMI, même si cette zone grise est encore difficile à interpréter, vous dites, Stephen Lawrence, que c'est l'un des événements les plus marquants qu'une personne puisse connaître.
En effet. Donc, on a maintenant des milliers de témoignages et ça va changer leur vision de la vie, de la mort. Donc, c'est clair que c'est une émotion très intense qu'ils ne peuvent pas comparer avec tout ce qu'ils ont vécu avant.
Est-ce que c'est une émotion qui est toujours positive ou négative ? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est traumatisant ou quelque chose qui change pour le mieux ?
Alors, justement, dans notre cohorte, ici en Europe, en Amérique du Nord, on a un peu regardé le top 10. Quelles sont les caractéristiques qui reviennent le plus souvent ? Et numéro 1, c'est ce sentiment de bien-être. Ils n'ont même pas les mots pour exprimer... une euphorie, alors qu'il y a un trauma crânien, vraiment aucune douleur. Puis il y a cette lumière, souvent interprétée comme un tunnel, la décorporation. On a observé que...
Pardon, la décorporation, c'est quand on dit ces histoires, on se voit soi-même au-dessus, on décolle de son corps et on voit ce qui se passe au-dessus dans la salle d'hôpital, par exemple.
Très impressionnant. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que voir le film de sa vie, c'est un tiers, donc c'est quand même moins fréquent que dans les films d'Hollywood. Et puis, je donnais une conférence en Russie, à Saint-Pétersbourg, et là, dans la salle, il y avait un prêtre, Fader Sergueï, qui, de l'église orthodoxe, voit ces personnes aux soins intensifs, et il me disait, tiens, 90% d'émotions positives, chez moi, pas du tout. il y a la moitié au moins qui voit le diable, qui va en enfer. Donc là, on est en train d'étudier quel est l'impact de ces différences culturelles. Aussi pour la lumière, d'ailleurs.
On ne voit pas la même chose, on ne voit pas la lumière dans toutes les cultures.
Alors, déjà, si c'est vrai, hein, parce qu'on n'aime pas l'anecdotique en science, on est en train d'étudier est-ce que c'est vrai que dans l'ex-Union soviétique, en Russie, il y a plus d'expériences négatives. Et aussi cette lumière où, avec nos collègues en Inde, on a plus cette notion d'une rivière, avec le monde musulman, c'est plus une porte. Donc oui, c'est une expérience universelle de tous les temps, mais il y a quand même des différences au niveau culturel.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Qu'y a-t-il après la mort ? En exclusivité, Zoom Zoom Zen vous le dévoile cet après-midi avec le neurologue Steven Lorez et toujours avec nous pour son livre « L'expérience de la mort imminente » qui vient de paraître chez Odile Jacob. Ces EMI, c'est justement ce sur quoi on zoome cet après-midi. Que ressentent les personnes qui la vivent ? Alors, on a parlé de la lumière blanche, on a parlé en fonction de des cultures, plutôt une rivière si on est indien, plutôt une porte si on est dans le monde, dans le Maghreb. Il y a quand même des points communs.
Oui, tout à fait. Maintenant, je travaille au Canada et donc en Amérique du Nord, ben, on va rencontrer Elvis ou Michael Jackson.
Ah oui.
Et c'est vrai que chez nous, ben, on a plus Jésus que quand on écoute les témoignages qui viennent d'Inde.
Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, entre guillemets, à ces EMI ?
Alors, c'est une excellente question. On l'a étudiée et il y a ce qu'on appelle le fantasy proneness. Donc, il y a l'artiste, il y a des personnes qui ont une fantaisie, une créativité. Ouais. Et oui, il y a une corrélation. Ce qui ne veut pas dire que c'est juste une fantaisie, que ça n'existe pas. Bien au contraire, c'est vrai. C'est important d'écouter ces personnes.
Et dans l'âge, dans le genre ?
C'est très difficile, non. On a des enfants, on a des athées qui deviennent croyants, mais pas nécessairement. Donc c'est vraiment une expérience personnelle, subjective, et un peu comme le rêve. Mais là, on sait de quoi on parle, parce qu'on a tous déjà eu ce rêve incroyable. Et ici, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a qu'une fraction de la population qui a eu ça. Et donc, c'est normal que les autres ils disent, c'est un peu bizarre, même des collègues, médecins, etc. Mais voilà, c'est une réalité neurophysiologique. Et c'est pas uniquement d'ailleurs en situation de mort imminente.
Non, ça c'est intéressant. C'est pas forcément des grands blessés ou des gens qui sont aux portes de la mort. Ça peut arriver dans quelles circonstances alors est-ce qu'on peut faire un EMI ?
Il y a l'expérience de mort imminente, le near death experience, near death. Mais il y a aussi le fear death. J'ai peur de mourir. Donc c'est l'alpiniste qui tombe.
Et puis,
il est sauvé par la corde, mais dans cette fraction, il vit quelque chose. Ou quelqu'un qui a presque un accident de voiture, le cerveau, il n'a pas eu de trauma, il n'y a pas eu de manque d'oxygène. Et puis, il y a aussi dans ces milliers de témoignages des personnes qui le vivent lors de méditation, lors du sommeil, l'orgasme, la petite mort. Donc, il y a plein de situations. On a fait aussi la comparaison, non seulement avec le rêve lucide, mais ces milliers de personnes qui partagent sur Internet ce qu'ils ont vécu lors de la prise de psychédéliques. Donc là, il y a une série d'hypothèses au niveau des récepteurs. Et maintenant, on a des outils, avec l'intelligence artificielle, de faire vraiment des analyses automatisées pour identifier qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent.
Pardon, docteur, mais une question quand même, ça dure combien de temps ? Parce qu'entre l'alpiniste qui va faire sa chute et qui est rattrapé par la corde, quelqu'un qui va avoir un accident de voiture ou quelqu'un qui met du temps à mourir, par exemple, les expériences de mort imminente n'ont pas la même durée. La notion de temps n'est pas la même.
Alors, très souvent, et on pose systématiquement la question, ils n'ont plus de notion de temps. Donc, ils sont vraiment dans un autre univers. Il y a aussi ce sentiment d'être un avec tout. Et il n'y a plus de temps.
Mais d'accord, mais ça dure combien de temps
à vrai dire, est-ce que ça se passe quand on perd conscience, donc je fais mon arrêt cardiaque ou le trauma crânien, est-ce que c'est quand je récupère la conscience ou dans cette période aux soins intensifs, il y a plein de choses qui se passent, on reçoit des médicaments qui peuvent me faire halluciner, je fais de la fièvre. Donc il y a beaucoup de facteurs confondants et on ne sait pas exactement quand ça se passe.
Vous dites que cette expérience peut aussi faire intervenir des effets inattendus comme les aveugles de naissance qui peuvent percevoir des couleurs pendant leur expérience de mort imminente. Comment c'est possible ça ?
Alors c'est fascinant parce que comme neurologue, je connais un peu le fonctionnement du cerveau et nos pensées, perceptions, émotions. Et c'est une reconstruction. Hein. Aussi, là, vous me voyez, on a cette discussion, vous allez avoir des souvenirs de ça, mais ce sera à peu près vrai. Mm-hmm. Il peut nous jouer des tours. Et donc, l'aveugle, il voit, mais sans ses yeux, il va décrire sa réalité. Et donc, oui, il peut avoir une expérience de mort imminente qui est vraiment l'émotion pure. Hein. Et même quand ça nous arrive, le cerveau, il a du mal. Parce que le cerveau, il fait quoi? Il essaye de donner un sens. Hein. Et là, il va, par tous les moyens possibles, avec l'hémisphère gauche, où il y a le langage, essayer de l'expliquer à lui-même déjà. Et puis la difficulté de le partager avec l'autre. Donc il y a une série de reconstructions de biais.
Lors d'une expérience de mort imminente, on peut voir Elvis. Mais dans son cas, gageons qu'il verrait plutôt Pierre Bachelet.
En ce temps-là, c'était ouais, Paris.
Son king à lui. Quant à lui, chaque après-midi, vous dissimulez soigneusement vos goûts musicaux afin que dans la rue, les gens vous acceptent et ne vous jettent pas des cailloux. Vous les faites réagir à notre phénomène du jour. Quentin, à Arles.
Oui.
Parce que vous deviez être là-bas pour votre plaisir personnel, probablement.
Non.
Vous avez couplé ça avec le travail, on a bien compris.
Pour la recherche.
Effectivement.
Pour la diversité de micro.
Il y en a trois à la suite.
Pour la recherche. Les expériences de mort imminente, et ils voient de quoi on parle, les gens?
Je m'attendais à la sortie du train à une foule en délire, prête à crier zen au moment où je crie zoom zoom. Rien de tout ça.
Oh.
Rien de tout ça, pas d'auditeur, mais tristesse. Rue de la Calade, Nelly et Bernard, en rando, dans Arles, avec qui je discute de notre sujet du jour, ont-ils vécu des...
EMI, expérience de mort imminente.
Moi, oui, j'ai eu un beau-frère qui a eu un accident grave il y a 30 ans de ça ou 40 ans de ça même. Hein. Il s'était découpé le crâne avec une disqueuse, alors c'est pour vous dire, en fabriquant sa piscine. Il avait à l'époque une trentaine d'années. Il a été évacué à l'hôpital de Montpellier en urgence, bien entendu, en hélicoptère. Et entre son départ de la piscine à l'arrivée à l'hôpital, il nous a toujours dit qu'il avait vu une lumière au fond d'un tunnel et que ses grands-parents lui parlaient. Lui disait « Viens, viens, tu risques rien, enfin bon ».
Alors, très bon exemple, on salue son ancien beau-frère, grâce à qui on a ce beau témoignage. Quel regard, lui, il porte sur cette expérience, Bernard?
Oui, bon, après, bon, moi, je sais pas, je crois pas en Dieu, donc les choses sont peut-être un peu différentes pour des personnes comme nous. Hein. Même celui qui vit ça, à la limite, comme nous, athées, après coup, peut-être que ça lui fait changer d'avis sur la religion, peut-être, hein, je sais pas. Parce que moi, j'amène ça à la religion. Bon, je fais peut-être complètement fausse route, hein, j'ai pas de...
Je traverse maintenant la place de la République. Ça joue de l'accordéon sur la vieille pierre blanche d'Arles, quand soudain, alors qu'il dépasse la tête d'un taxi...
Vous êtes Quentin
Louis ? Oui ? Attendez, vous avez fait arrêter votre taxi ?
Bah ouais, forcément, faut zoom zoom zoom, comme dirait quelqu'un du matin.
Vous êtes un vrai auditeur.
Ouais, depuis très longtemps, ouais.
Il découvre le thème du jour.
Ah, expérience de mort imminente, ouais. Alors, ça provient peut-être d'une nécessité tout à fait humaine de donner du sens à des choses. Je pense qu'il y a une constante dans les récits religieux de la chrétienté. Il y a cette question de la situation où la lumière, toute cette idée qu'on voit toujours le film de sa vie au moment où on va mourir, des choses comme ça. Est-ce que cette narration qui a lieu dans la culture en général est imprègne pas tellement les gens que ça produit rétrospectivement de cette expérience ce type de récit.
Et est-ce qu'à force de vouloir y croire, on a l'impression de le vivre? Je lui dis qu'en préparant l'émission, on n'était pas serein dans l'équipe.
Non, Mariani, par exemple, elle m'a dit « Je vais pas passer une bonne émission. Ça me fait peur.
» Bah, il faut que Marion boive un verre de Chablis avant l'émission.
C'est Manon. Hein.
Manon, pardon.
Et voilà.
Merci pour la
j'allais dire, il vous connaît bien, mais pas tant que ça.
Mais si. Et puis, il a bien compris que le Chablis, ça pouvait guérir des choses. Delphine, à la quarantaine, nous sommes au pied de l'hôtel de ville d'Arles. Je lui demande si elle sait ce que sont les...
EMI, ça, c'est quand qu'on est en train de mourir et que ça ne va pas jusqu'au bout, qu'on revient avec le souvenir de ce moment-là.
Elle me confie ce qu'elle pense de tout ça.
Je pense qu'il y a un continuum d'états de conscience modifiés qui vient peut-être depuis le phénomène du rêve, en passant par l'hypnose, en allant jusqu'à la transe et peut-être jusqu'aux EMI, je ne sais pas.
Ouais, c'est dingue, il y a un lien entre la méditation par exemple ou ce qu'on est capable de créer avec son cerveau.
Toutes les facultés de notre cerveau, on n'utilise pas tout le potentiel de notre cerveau. Il y a des zones de notre cerveau qui sont là, on ne sait pas pourquoi, alors que rien n'est jamais inutile dans la nature. Donc les EMI, je pense que c'est un aspect fascinant de notre cerveau Et que oui, peut-être c'est assez similaire avec d'autres états de conscience modifiés. Et c'est sans doute assez peu étudié.
Notre cerveau pourrait-il créer un état second qui nous protège du choc que notre corps vit dans une telle situation? C'est ce qu'elle me dit, elle me confie tout ça. Elle me dit que l'apaisement et le sentiment qui revient de ce genre de récit, on est apaisé, même ceux qui approchent de la mort.
Je sais pas, moi j'ai accompagné mon grand-père qui était d'un très très grand âge. Il était, comment dire, sur la fin de vie, comme on dit. Et je lui ai demandé, je lui ai dit « Alors, tu vas où ? Est-ce que tu vas ?» C'est un militaire, donc je lui ai demandé s'il allait dans le Tartare, s'il allait au Paradis, s'il allait aux Champs-Élysées. Il m'a regardé avec sa petite étincelle dans les yeux, il m'a dit « On verra bien. »
Tu pensais qu'il allait où ? Sur les champs, papy ?
Je sais pas, et on verra bien, peut-être que je le rejoindrai.
Eh ben j'espère, je lui souhaite. Entre les croyances, la religion, les zones inconnues du cerveau qui offrent un éventail de fantasmes autour du sujet aussi, finalement les EMI, expériences de mort imminente, c'est peut-être le cerveau qui improvise quand il sent que le rideau va tomber. Il s'offre une dernière scène pleine de lumière.
Il est allé où, papy? Ouais. Sur les champs, la finesse de
la
Quentin,
délicatesse.
La délicatesse pour aborder des situations de vie délicates
comme
ça. Je sais
leur parler aux gens.
Ah, ça, j'ai remarqué, oui. Stephen Lorez, le grand neurologue, est avec nous cet après-midi. Je rappelle votre livre, L'expérience de mort imminente. Est-ce que notre cerveau fabrique des images comparables aux rêves ou à ce qu'on ne voit pas en méditation pour quelque part se protéger de la douleur, comme le suggérait quelqu'un? Est-ce que ça, c'est une hypothèse intéressante?
Alors, on a fait un article où on se pose la question, est-ce que l'homme serait le seul animal à vivre cela, parce que c'est vrai, dans les religions, il n'y a pas beaucoup d'animaux au paradis. Et on a fait un appel à témoins pour tous ceux qui ont survécu une attaque d'un animal sauvage dans les eaux ou dans les livres. Je raconte Livingstone qui s'est presque fait manger par un lion, et où à un moment, après cette activation de notre système autonome stress, je veux me battre ou fuir, il y a ce moment de paralysie. Hein. Et on le voit aussi chez beaucoup, beaucoup d'autres animaux. C'est oui, vraiment très, très universel. Et probablement, si on suit Darwin, ça a une fonction au niveau de notre chance de survie, notre adaptation évolutionnaire. Ça a été fort critiqué aussi, cette idée-là. Donc, les sciences.
Ça ne fait pas l'unanimité, en tout cas.
Non, non, parce que c'est un sujet, comme je disais au début, assez brûlant. Délicat. Mais donc, oui, c'est peut-être un phénomène qui va me protéger, ou justement, dans une situation très inconfortable, je suis en train d'être mangé, je n'ai plus la sensation de douleur, et ça pourrait me sauver, comme on le voit dans d'autres situations.
Professeur Bernard nous confie l'expérience de son beau-frère, qui lui raconte carrément avoir discuté, lui, avec ses grands-parents au bout du tunnel. Pourquoi c'est fréquent dans les récits qu'on parle, soit à nos aïeux, disparus peut-être, décédés?
Alors, oui. Ici, à nouveau, j'essaye de partager qu'est-ce qu'on sait, d'un point de vue scientifique, et puis qu'est-ce que la personne qui l'a vécu, quel est le sens on va donner à cela. On fait des études maintenant parce que je suis au Canada avec les Amérindiens, avec les autochtones, et pour eux c'est vraiment une porte extraordinaire avec leurs ancêtres. Et donc je suis pas là pour dire non, vous trompez, c'est telle ou telle région qui s'active. Donc on peut avancer dans ce domaine, par exemple, la décorporation, qui est déjà extraordinaire, je me vois quitter mon corps. On peut la provoquer ici, du côté droit, au milieu, si on va avec un aimant fort stimuler cette zone, on peut provoquer des décorporations. Il y a, au niveau de l'hémisphère gauche, une autre région qui, quand on va la stimuler, eh bien justement, on va créer ce sentiment qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une présence. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est intéressant. Est-ce que ça explique tout le phénomène et son côté mystique et qui change notre vision de la vie et de la mort? Non, mais voilà, c'est des pistes intéressantes.
Mais du coup, on n'est pas forcément dans le coma ou endormi. Si je vous suis bien, par exemple, je pense à la décorporation. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes de violences sexuelles qui disent qu'elles ressentent ce sentiment. Est-ce que c'est une forme de EMI?
Alors, c'est une caractéristique. Hein. Les décorporations, c'est beaucoup plus fréquent. Dans le livre, je partage ma propre décorporation. Quand j'étais jeune médecin, je devais présenter mes résultats. On étudiait la douleur chez le rat. Et alors, j'étais tout fier. C'était ici à Paris, congrès mondial. Et j'étais très stressé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des médicaments, hein, comme médecin, un bêta-bloquant, et puis ça ne marchait pas, puis j'ai pris un deuxième, peut-être même un troisième. Donc mon promoteur, il commençait vraiment à stresser, là. Et alors j'ai fait mon exposé, c'était 8 minutes, je connaissais par cœur, et à un moment, je m'entends parler, puis je me vois parler, puis je dis, ouh, ça c'est pas bon ça. Et donc, on connaît ce phénomène où c'est une situation peut-être, et je le décris dans le livre au niveau des hypothèses, où justement cette pédale de gaz, je suis stressé, et si en même temps je pousse sur le frein, c'est l'autre système parasympathique, avec une matière grise, dans une constellation neuronale particulière, on peut avoir ces phénomènes très riches et très émotionnels.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Impossible de parler des expériences de mort imminente sans évoquer Manon. Manon, qui est la plus ancienne patiente de notre invité, le docteur Stephen Lorez, elle est à ce jour la française à avoir fait le plus grand nombre de MI, 17. Chaque fois dans un bar et chaque fois au moment de l'happy hour. Ce quiz lui est dédié.
Mon Dieu.
Un zoom zoom test.
Ouais, bon.
Hein, comment ça, à qui? À Manon?
Ah oui.
Il faut suivre. Oh, un point en moins pour Quentin.
Oh, pas bah d'accord.
Un zoom zoom test à la découverte aujourd'hui des rites funéraires les plus intrigants de par le vaste monde. Et tout commence en Asie, plus précisément au Tibet. Cette région que la Gen Z a découvert grâce à Inox Tag et la Gen Y grâce à 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Là-bas, l'oxygène est rare, mais les traditions nombreuses. Parmi elles, celle du Bardo Todol. Un rituel funéraire qui, selon vous, consiste à prier Brigitte Bardot, jouer de la flûte pour aider l'âme du défunt à s'élever vers le nirvana, ou lui lire une sorte de Lonely Planet de l'au-delà pour que l'âme trouve son chemin.
Mais c'est pour moi.
Alors, vous avez dit B assez non, fort, pourtant.
Oui, mais c'est pour être... voilà, C.
Donc, choisissez C au hasard, finalement.
J'ai envie de dire
Vous pensez que le hasard va vous guider comme ça vers la bonne réponse?
Souvent, c'est le cas.
Ça n'a aucun sens.
Ouais.
C'est une bonne réponse de Quentin
mais
B,
non.
C. Et non, à part Cyril Lacarrière, qui a, dans ses dernières volontés, demandé à ce que Denis Chesnet, son boucher, joue Stranger Than the Night à la flûte à bec lors de ses obsèques. Denis Chesnet, qui, notons-le, joue à peu près aussi bien de la flûte que Cyril. À part Cyril, donc, personne, même au Tibet, ne souhaite passer de vie à trépas au son d'une flûte à bec. Non, chez les bouddhistes, on lit le Bardo Todol ou Livre des morts, qui est récité par un lama, pas forcément Serge, n'importe quel lama fait l'affaire, lors de l'agonie ou jusqu'à 49 jours après la mort afin d'obtenir une meilleure réincarnation. Attention tout de même, amis tibétains, à ne pas attendre trop longtemps. Passé 40 jours, l'odeur peut commencer à indisposer les plus sensibles et même évoquer, disent ceux qui l'ont vécu, le fumé de la fameuse bouchetta de Manon Mariani. Mais attention, remontons sur le yak du gai savoir, direction le Japon. Où a longtemps perduré la tradition des moines Soku Shinbutsu, qui choisissent d'accéder à la mort en mangeant de l'écorce et des cailloux, en s'enterrant vivant dans un cercueil de pierre, ou en écoutant l'intégrale des douces sœurs de Cyril depuis la saison 1 de Zoom Zoom Z.
B. Et C. Non, je rigole, juste B.
Bah A, moi j'aurais choisi la C pour mon enterrement personnel, mais A. En intra.
Eh bien, c'était les réponses A et B. Notre invité neurologue vous le dira, personne ne peut écouter l'intégrale des douces sœurs. C'est impossible. Mais grosse motivation quand même pour le moine Soku Shinbutsu, puisqu'il pouvait se nourrir de racines et de caillasses pendant 1000 jours, avant, ensuite, de se faire emmurer vivant et de chanter sans discontinuer jusqu'à la mort. Dommage que cette tradition ne soit que japonaise.
Ça doit
certains,
pas durer longtemps.
Certains gagneraient à s'emmurer pour chanter.
Tu es mon mille et
On ne citera pas de nom.
Pauvre Pascal Obispo.
Et maintenant, partons pour l'Indonésie, sur l'île des célèbres, chez les Torayas, un peuple qui vit bien avec la mort. Chez les Torayas, pas de MI, plutôt des EMR, des expériences de mort renouvelées. Car les Torayas croient que les esprits des morts restent dans le monde des vivants jusqu'à leurs funérailles et commencent seulement ensuite leur voyage vers le pays des esprits. 2 ans plus tard, 2 ans après la mort de la personne, ils pratiquent le manéné, qui d'après vous consiste à...
C'est quoi le manéné?
Il est trop fier, il pratique le manéné.
Je pensais que vous le saviez, mais je vous donne quand même des options.
Bien sûr, vaut mieux.
Allons-y.
Qui consiste à quoi le manéné?
À
sortir Pépé en décomposition du cercueil, lui mettre son plus beau costume et faire des selfies dans le village avec la momie. À déterrer le mort, le remettre dans son cercueil ensuite avec un chien vivant pour ne pas qu'il s'ennuie. Ou déterrer les restes du mort pour préparer un ragoût afin que, comme le disent les Torayas, la mort retourne à la vie.
Ah, c'est dur. Franchement, c'est hyper
dur. C'est une culture indonésienne.
Franchement, je dirais B.
Moi, je dis C.
Le chien.
Le chien, pour vous.
Moi,
on met un toutou.
Non, mais après, le pauvre, c'est-à-dire qu'il meurt aussi.
Mais si Brigitte Bardot nous écoute,
on mange papy.
On espère pas.
On mange papy.
B.
En ragoût. C'est une très mauvaise réponse. C'était la réponse
A. C'est horrible.
Fascinant, Torayas, qui déterre donc leur mort, un peu comme quand Europe 1 était reparti chercher Patrick Sabatier, pour passer un petit moment avec eux.
Gratuit,
et ça me rappelle notre invitée Hélène Gâteau et son chien empaillé, Colonel, qu'elle trimbalait partout, y compris dans ce studio, en le frottant aux jambes de Manon pour vous faire croire qu'il était encore de ce monde. Mais qui sommes-nous pour juger? Car en Occident aussi, on a parfois des pratiques cheloues. Direction les États-Unis, où on n'est jamais à court d'idées pour faire de la grosse moula, afin que vos chers disparus accèdent à une vie meilleure dans l'au-delà, une société a eu l'idée disruptive de proposer quoi? Une photo du corps transmise par Bluetooth depuis l'intérieur du cercueil à chaque anniversaire de la disparition du défunt.
Sur le gâteau, ça va être
le
sympa.
Le pire cadeau, oh là là.
Faire un diamant à partir des cendres du Maccabée. Ah. Ou faire tatouer le cadavre avec les noms des membres de sa famille pour s'en rappeler de l'autre côté du tunnel. C'est dur. Vous penchez pour le diamant?
Oui.
Moi, la Bluetooth, ça me... Moi, je veux dire A.
C'est une bonne réponse de Manon Marianne.
Ah, mais franchement, j'ai eu peur.
Qui mérite une explication? Le processus de transformation du carbone en diamant se déroule aux États-Unis et consiste à séparer le carbone des autres éléments des cendres dans un environnement à faible teneur en oxygène. Ça, vous vous en doutiez. Le purifier au charbon et transformer le tout dans une presse à diamant pour être ensuite taillé et poli et obtenir la forme souhaitée du diamant éternel. Life Gem, c'est le nom de ça. Et le tout pour quelques milliers de dollars seulement. Une belle idée pour la femme de Cyril, le jour venu. Non. Bravo, Quentin. Okay. Bravo, Manon. J'avais écrit bravo, Quentin, un peu comme si le quiz était truqué.
C'est
il n'en est rien.
Fou, ça.
Victoire de
merci.
Manon Marianne.
Ça va donner une petite idée, le truc de la Bluetooth.
Une idée de business, peut-être.
La Bluetooth, non, mais Quentin.
Mais pourquoi pas?
Ça peut marcher. Qu'y a-t-il, les amis, pile entre la vie et la mort, dans cet interstice mystérieux que certains disent avoir connu? Qu'est-ce que l'expérience de mort imminente? C'est la question qu'on se pose avec le neurologue Stephen Lawrence, qui vient de tirer dans un livre ses observations. L'expérience de mort imminente, c'est chez Odile Jacob. Vous-même, Stephen, et c'est ça qui est fou, on en parle en antenne, vous avez tenté de vous retrouver dans un état de mort imminente. Vous avez connu cet état entre la vie et la mort, dans le cadre d'une expérience légale, il faut le préciser, avec d'autres participants, d'autres cobayes. Comment ça s'est passé concrètement?
Vous avez déjà parlé de l'expérience interdite, hein, Flatliners. Ouais, donc, pour nous, c'est très important de pouvoir mesurer dans des situations contrôlées. Donc oui, on a au CHU de Liège fait perdre conscience par un manque transitoire d'oxygène vers le cerveau. Une série de volontaires, dont moi-même, parce que si on propose aux autres, il faut
montrer l'exemple.
Au jour.
Combien de personnes ont dit oui, juste pour savoir?
On était une trentaine, avec 256 électrodes sur la tête. Et donc la moitié va vivre cette expérience intense, ils sont dans un autre monde, une autre pièce. Et on a donc pu prédire, sur base de l'activité électrique mesurée lors de cette perte de conscience, qui par après avait l'expérience la plus intense. Ce n'était pas moi.
Ce n'était pas vous. Et c'est quoi l'échelle de Bruce Grayson?
Alors... C'est un collègue qui a vraiment permis de mieux caractériser à travers d'une série de questions. Ils sont aussi dans le livre, parce que c'est ça qu'on essaye de faire en science. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, il y a là un score total et puis ça permet de identifier l'EMI.
Qu'est-ce que vous avez vu? Je reviens sur votre expérience, parce que vous pouvez peut-être nous la décrire là, en direct à la radio.
Alors j'étais un peu déçu, Quentin, parce qu'il y avait des caméras, c'était un documentaire avec National Geographic, et j'ai vraiment fait tout mon possible, donc on doit hyperventiler, puis on se met debout, il y avait mon ami, chef des soins intensifs, et puis il ne s'est rien passé.
Ah, vous n'avez rien vu, vous?
Et donc la première chose que j'ai dit, c'est « désolé, ça n'a pas marché ». Et puis je vois mon copain, Didier, qui est tout blanc, et là je dis « mais c'est particulier. » Et puis je me dis, là, tantôt j'étais debout, maintenant je suis couché, donc j'étais inconscient le plus longtemps de l'étude, plusieurs minutes. Mais le cerveau, il fait quoi? Il essaye de donner un sens, donc pour lui, il a juste collé les deux morceaux et il a dit « désolé ».
Et physiquement, allongé, les gens ne réagissent pas?
Alors, on a vraiment une syncope, il peut y avoir des mouvements anormaux. D'ailleurs, c'est un défi parce qu'il y a aussi des crises d'épilepsie et la syncope peut un peu mimer. Donc,
on peut parler pendant une EMI?
Non. Donc, le défi, c'est que quand on l'a, on ne peut pas le partager. Donc, on peut s'en souvenir après ou pas. On a étudié que ceux qui, dans nos différentes unités de soins intensifs, survivent un trauma, une hémorragie du cerveau ou un arrêt cardiaque, il y a 15% qui part après à la première question, est-ce que vous avez vécu quelque chose, est-ce qu'ils ont vécu une EMI. Il y en a peut-être beaucoup plus, comme peut-être que vous vous souvenez de votre rêve ou pas, mais vous avez probablement eu plusieurs épisodes de sommeil paradoxal. Donc là aussi, il y en a peut-être beaucoup qui font l'oublier.
Il y a d'autres enseignements de ces études sur les EMI. Je pense aux gens qui ont des proches, qui nous écoutent, qui ont des proches qui sont dans le coma. Est-ce qu'il faut parler aux gens qui sont dans le coma dans l'espoir qu'ils nous entendent ? Peut-être, vous, c'est ce que vous faites avec vos patients.
Oui, alors, très longtemps, on m'a dit, mais arrête, parce que tu vas donner un faux espoir à ces familles. Et je pense que, quelque part, on a créé comme ça un sort de faux désespoir. S'il y a des personnes qui prennent beaucoup de temps pour récupérer, à l'époque on appelait ça un état végétatif, c'est horrible, on ne va pas comparer un être humain à une plante. Donc maintenant on parle d'un éveil non répondant, parce qu'à nouveau, il est, après un certain temps, on va ouvrir les yeux, mais on ne répond pas. On a clairement démontré ces deux dernières décennies avec les différentes équipes, quand on regarde avec la neuroimagerie, que quelqu'un qui ne répond pas, eh bien, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est inconscient. On peut encore avoir une certaine activité cérébrale et une forme de pensée, de perception, d'émotion. Et c'est vrai aussi pour ces personnes avec des expériences de mort imminente, ils peuvent entendre des choses. D'ailleurs, parfois, le réanimateur qui leur dit « reviens, reviens », ce qui peut avoir un impact même sur la réanimation en elle-même.
L'expérience de mort imminente de notre invité Steven Lorez, c'est chez Odile Jacob. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre. Est-ce qu'elle est aussi compétente scientifiquement que notre invité ?
Je ne pense pas, parce que je vous présente Francis Lalanne. Il a 66 ans. Il est français et il est à la fois chanteur, compositeur, complotiste, anti-vax, écologiste et ex-star de télé. Bah oui, plusieurs casquettes. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est uniquement la faute de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, car quand on a parlé du sujet de l'EMI en conf de rédaction, un film lui est venu en tête, Le Passage, sorti en 1986.
Sinon je te tue ! Je te tue ! Je te tue ! Je te tue ! Je te tue !
Le pire navet que j'ai vu de ma vie, selon Cyril Lacarrière. Un film où, on l'entend, Alain Delon campe un auteur de bande dessinée qui meurt dans un accident orchestré par la mort. Celle-ci lui propose un pacte, achever un film violent en échange de la vie de son fils plongé dans le coma. Mais quel est le rapport avec Francis Lalanne, vous allez me dire ? Eh bien, c'est lui qui signe le morceau du film.
Pense à moi comme je t'aime.
Quentin adore. Bon bref, On se retrouvera devient un immense succès populaire. La chanson est même numéro 1 du top 50 en 1987. Francis Lalanne peut dire merci à René Manzor, le réalisateur du film, qui se trouve être aussi son frère René Lalanne. Plus qu'un chanteur, Francis Lalanne devient vite une personnalité française invitée sur tous les plateaux télé. Lui qui se dit empreint de lyrisme, poète, écolo, qui défend la cause animale. Son allure de babacool et ses interventions souvent moquées attirent évidemment la télé. En 2003, il est la star d'une télé-réalité avec Joey Starr sur Canal+, 60 jours, 60 nuits, on s'en rappelle. Dingue. La même année, il viendra en guest dans la télé-réalité de TF1, Nice People. Voilà, j'avais oublié, il s'engage aussi politiquement auprès des écolos. Et puis, Francis Lalanne a un mode de vie assez particulier car il vit une vie de bohème avec sa guitare sans bien matériel. La cause, l'État et ses contrôles fiscaux incessants. C'est un des éléments qui crée chez lui un fort ressentiment à l'encontre de la classe politique française. Résultat, en 2019, Francis Lalanne prend un nouveau tournant et s'engage avec les Gilets jaunes. Il devient même une figure médiatique du mouvement. En 2020, pendant la pandémie, il devient aussi anti-vax. Sur Twitter, il dit que le vaccin contre le Covid-19 est un crime contre l'humanité, rien que ça. Son compte est vite suspendu. Il s'oppose aux médias, parfois même de manière violente, comme en atteste cette altercation avec les journalistes de Quotidien en 2021.
Enlevez ce qu'il y a dans la caméra.
En 2022, lors de l'entre-deux-tours, il l'appelle à voter pour Marine Le Pen. Et puis, l'année dernière, Francis Lalanne a annoncé sa candidature aux élections européennes en s'associant avec Dieudonné. Ensemble, ils lancent la liste France Libre, présentée comme une coalition d'associations citoyennistes, je les cite. Ils ont récolté 0,02% des voix et Lalanne a été déclaré inéligible pour 18 mois en avril 2025 parce qu'il n'avait pas déposé les comptes de campagne. Et oui.
Merci Manon, mais vous avez oublié l'essentiel. Francis a vécu un EMI et c'était en direct à la radio.
C'est vrai.
Francis, oula. Francis est tombé.
Francis est tombé.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France. France Inter.
Sa première EMI, expérience de mort imminente, lui, il l'a vécu hier soir au Pilates avec deux vieilles dames. Sa tenue a d'ailleurs laissé penser aux gens qu'il était plutôt dans un dojo SM que dans une salle de sport conventionnelle. Ses commentaires aussi, notamment quand il a dit, je cite, « Être attaché comme ça par les pieds et par les mains, ça te procure des sensations un peu uniques », ont contribué à brouiller les pistes entre Pilates et domination. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, comme chaque après-midi, vous retirez votre bijou d'urètre pour nous présenter habillé. C'est vos dernières stories, elles ont semé la confusion dans mon esprit.
16h52.
Parce que les gens ne savent pas ce que c'est ça qui est pratique. Le petit carnet de Zoom Zoom Zoom. Tout ce qu'on s'est dit sur le EMI en une minute chrono.
Et on a parlé de l'expérience de mort imminente cet après-midi avec Steven Lawrence, neurologue spécialiste du coma, qui s'est démené hors antenne pour ramener Manon à la vie, alors qu'en fait elle s'était juste assoupie comme tous les jours durant le doux assoir de Cyril. Le professeur Lawrence nous a expliqué en quoi consistait cette étape entre la vie et la mort, un moment encore très mystérieux pour le corps médical qui repose essentiellement sur des témoignages. Certains disent qu'ils ont flotté dans les airs ou ont vu toute leur vie défiler, par exemple. Le terme lui-même est probablement impropre, car d'après notre invité, la peur de mourir lors d'un accident, la méditation ou même l'orgasme, Quentin, peuvent provoquer une EMI qui n'est donc pas une mort cérébrale. Ce qui ressort de cet instant, c'est la vision d'une lumière pour les patients européens, mais des Américains peuvent voir Elvis. Bon, ainsi on comprend que le milieu culturel influe sur cette expérience unique mais universelle. C'est ce qui fait aussi que les scientifiques eux-mêmes ne se sont pas risqués sur ce sujet pendant très longtemps. Parlons parfois d'hallucinations, mais rien ne fait peur à notre invité qui a lui-même testé ses limites. Il a essayé d'atteindre l'EMI en baissant son apport en oxygène dans son cerveau. Résultat, il n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Bon, c'est un petit peu décevant, Steven. Mais grâce à vos recherches...
Ça va, Pierre.
Il est vraiment sympa.
Mais grâce à vos recherches, on peut aujourd'hui affirmer qu'entre un simple manque d'oxygène et la preuve qu'il existe une vie après la mort, eh bien, on n'a pas encore totalement compris ce qu'était notre conscience humaine. Et en avoir conscience, c'est déjà le début de la science.
Vous voulez peut-être déchirer les
Merci. Le livre était passionnant.
Remettez votre bijou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et il faut rappeler quelque chose d'important, je sais pas, après on va être pris par le temps. Rappelons que l'EMI, c'est pas, on ne meurt pas après, hein. On en revient, c'est précisément...
C'est ça, donc on n'est pas mort. Hein. Mon métier comme neurologue aux soins intensifs, c'est de déclarer la mort cérébrale. Et donc là, depuis les années 50, quand on a les critères et que ce n'est pas une erreur professionnelle, jamais quelqu'un est revenu. Et si je peux me permettre aussi un petit appel à témoins.
Bien sûr.
Parce qu'on a besoin de vous. On en a des milliers, mais il en faut encore plus pour mieux comprendre ce phénomène extraordinaire. Donc, contactez-nous, nde@ulaval.ca, pour partager par écrit ou même par dessin maintenant ce que vous avez vécu.
Manon est prête à faire l'expérience, en tout cas.
Ah non, j'ai...
Venez, venez.
Elle tremble.
J'ai trop peur.
J'ai souvent frôlé la mort à l'écoute de ces chroniques qui sont toujours drôles et très bien documentées. J'ai hâte de vous entendre, Guigui Pop, ou devrais-je dire professeur Guigui.
Oui, salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guy double Guigui, puis Guy. Quand je dis Guy, vous dites Guy, ok. Guy,
Guigui,
comment je m'appelle?
Guigui.
Eh ben, bonjour Steven. Enchanté, aujourd'hui je vais questionner quelques affirmations que vous avez publiées dans vos études sur les expériences de mort imminente. Puisque je suis moi-même un expert, j'imagine que vous avez reçu le mail de présentation me concernant. D'accord, merci. Moi j'ai reçu le vôtre, visiblement c'est pas donnant-donnant, mais pourquoi pas. Puisqu'il faut tout faire soi-même, je me présente, professeur Guigui, titulaire du brevet des collèges, d'un brevet des 25 mètres en brasse, d'un bac ES sans mention et d'un permis B, obtenu du deuxième coup. Comme ça, vous savez un peu mieux à qui vous avez affaire. Ah bah ça la ramène plus, Steven. On l'entend plus. Alors, bon, contrairement à vous, j'ai vécu une expérience grandiose de mort imminente. Vous l'avez dit vous-même, il existe plusieurs façons d'y parvenir, notamment par évanouissement, comme un énorme fragile, par la méditation, ou alors par orgasme. Et regardez la bête, Steven. Ah ouais, je vous laisse deviner par... je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. Oh. Et non. Étant jeune papa depuis 10 mois, je vais pas mentir, ça fait bien longtemps que j'ai pas frôlé la mort, Steven. Bordel, qu'est-ce que je suis vivant, c'est incroyable. En ce moment, c'est fou, I'm alive. Je vis, je vis, je vis. Bref, vous l'aurez compris, étant détenteur de l'application Petit Bambou, c'est par la méditation que j'ai vu la mort en face. Petit Bambou, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le nom que Quentin donne à sa pompe à plaisir. Mais c'est aussi une application qui permet de perfectionner sa technique méditative. Grâce à mes deux séances en 6 mois, je suis donc devenu un grand maître. Appelez-moi désormais Maître Yogi Guy.
Alors,
aussi gratuitement et dans l'optique d'atteindre tous ensemble une expérience de mort imminente, je vais vous offrir ainsi qu'aux auditeurs une séance de méditation guiguidée. C'est parti. Namasté glacé pour les gourmands. Namasté triste pour les gamers. Et Namasté sûr que Cyril Lacarrière a vraiment validé tous ces jeux de mots de merde. C'est étrange. Bienvenue dans cette séance de méditation guidée. Fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant. Imagine. Vos paupières sont lourdes, comme le dernier single de Patrick Sébastien, qui s'intitule « La quéquette à Raoul », chanson dans laquelle il nous intime de souffler dedans pour faire tourner ses petites boules. Mais bref, connectez-vous à votre esprit est désormais aussi vide que votre compte en banque. Lol, ça galère à finir les fins de mois ou quoi, la team? Vous n'allez pas tarder à apercevoir un tunnel avec une lumière au bout ou une porte avec une lumière derrière. Pour ma part, j'aperçois le péage de Saint-Arnoux sur la 10. Un jour de chassé croisé, chacun son petit monde. Au bout de ce tunnel et derrière cette porte, c'est bien la lumière du paradis que l'on aperçoit. Oui, mais le paradis du fruit, la franchise de restauration, dont le slogan est, je le rappelle, « Votre escapade gourmandise ». La désillusion est terrible et ça donne vraiment envie de se foutre en l'air. Nous avons probablement atteint notre but. Vous pourrez ouvrir les yeux. Alors Steven, je pense que outre nos divergences en matière de théorie scientifique et de parcours estudiantin, on peut tout de même s'accorder sur un point, cette séquence était lamentable. Et vous devez avoir les namastétés qui pointent. Bon, somme toute, je ne sais pas si nous sommes parvenus à vivre une expérience de mort imminente grâce à cette séance, mais pour ma part, vu les regards de consternation sur ce plateau, ça m'indique que je m'apprête à vivre une expérience de fin de carrière imminente. J'ai bien l'impression que ça part en namasté les travails pour le grand maître Yogi Guy.
C'était exceptionnel jusqu'à la fin, merci Guigui.
Merci,
je me suis
plaisir.
Beaucoup retrouvé dans cette chronique, jeune papa. Merci Steven Lorez, rappelle votre livre passionnant qui vient de sortir chez Odile Jacob, L'expérience de mort imminente. Zoom Zoom Zen.